100 000 fois plus précise. Et cette extrême sensibilité permet de mettre en évidence certaines des propriétés les plus étranges du temps, dont celle qu'Einstein a été le premier à prédire. La dilatation gravitationnelle du temps. Dans le film Interstellar, une partie de l'équipage d'un vaisseau spatial descend en navette explorer une planète en orbite autour d'un trou noir supermassif. À leur retour, les membres de la mission ont l'impression d'être partis seulement 3 heures. Mais ce n'est pas le cas du coéquipier qui est resté dans le vaisseau.
I've waited years.
23 years, 4 months, 8 days.
Ce décalage est le résultat de la déformation de l'espace-temps induite par le trou noir. À mesure qu'on approche du trou noir, la gravité devient plus forte et le temps ralentit. Mais pas besoin d'un trou noir pour mesurer cette différence. Car autour de notre planète aussi, la gravité varie, tout comme le temps, en fonction de la distance par rapport au centre de la Terre. Pour une personne au sommet de l'Empire State Building, la gravité est moins forte et le temps s'écoule plus vite que pour une personne qui se trouve dans la rue, où la gravité est plus importante. Tout ceci est imperceptible pour nos sens, et nos montres ordinaires sont incapables de mesurer cet écart minime. Mais les horloges optiques de June sont si précises que même une légère différence d'élévation entre deux horloges suffit pour que celle-ci mesure une divergence dans l'écoulement du temps.
En surélevant une horloge de quelques centaines de microns, soit l'épaisseur d'un cheveu humain, on peut déjà voir que le temps s'écoule différemment.
Avec un tel degré de précision, les horloges optiques atomiques font bien plus que mesurer le temps. Elles nous éclairent sur la nature élémentaire de l'univers.
Une horloge optique est bien plus qu'un appareil qui mesure le temps. C'est un outil qui permet d'explorer la physique fondamentale, de stimuler notre curiosité et d'élaborer de nouvelles technologies en lien avec l'informatique, le traitement des données et la communication quantique.
Les horloges atomiques de June ne pourraient pas fonctionner sans des lasers ultra stables. Le laser est également une technologie quantique inventée dans les années 1960.
You are looking at an industrial laser which emits an extraordinary light not to be found in nature.
I will show you.
Cette scène de Goldfinger sortie en 1964 est considérée comme l'une des premières représentations populaires de cette technologie futuriste.
I think you've made your point, Goldfinger. Thank you for the demonstration.
Aujourd'hui, les lasers sont partout. En médecine, pour corriger notre vue. À la caisse du supermarché. Pour découper des pièces. Pour communiquer, pour faire jouer les chats, et bien sûr, sur scène, pour nous en mettre plein les yeux. C'est peut-être pour cette raison que le physicien expérimental Rana Adhikari est un fondu des lasers.
Quand je dis que les lasers sont un outil magnifique, j'essaie de rester mesuré. Je ne voudrais pas qu'on me prenne pour un fou, un type bizarre, amoureux des lasers. Mais ils ont vraiment quelque chose de spécial.
Afin de comprendre ce qui rend la lumière laser si singulière, intéressons-nous d'abord aux ampoules électriques ordinaires. Celle d'autrefois, avec un filament de tungstène. Leur lumière est le résultat d'un rayonnement thermique. Un coup courant électrique chauffe le filament en le traversant. Il excite les atomes de tungstène qui vibrent à différentes vitesses, ce qui provoque l'émission de photons dans toutes les directions, sur une grande variété de longueurs d'onde. Comparé à un laser, c'est le chaos le plus total.
Une ampoule électrique, c'est un peu comme une foule où personne ne chante à la même tonalité. C'est le public d'un concert de rock. Mais un laser, c'est comme un récital dans un conservatoire de musique de premier ordre. C'est comme une chorale où tout le monde chante parfaitement juste, mais une chorale d'un milliard de milliards de personnes en parfaite harmonie.
La lumière laser est générée différemment, comme l'indique son nom. Lumière amplifiée par émission stimulée de rayonnement.
Imaginons qu'on a à l'intérieur d'un atome un électron en état d'excitation, donc à un niveau d'énergie supérieur, et qu'un photon à la fréquence adéquate passe près de cet atome. Ça va déclencher quelque chose de très intéressant. L'électron va sauter au niveau d'énergie inférieur et émettre un photon avec une fréquence, une direction et une phase identiques à celui qui l'a stimulé. On a donc un processus d'amplification quantique.
Si on place ces mêmes atomes excités dans une chambre fermée aux deux extrémités par un miroir, les photons libérés vont rebondir d'un côté à l'autre et continuer à stimuler l'émission de nouveaux photons qui vont à leur tour en stimuler davantage. L'un des deux miroirs n'est que partiellement réfléchissant et laisse passer une partie de la lumière.
Cette lumière est très spéciale. Elle est constituée de photons qui ont tous la même fréquence, donc la même couleur, avec une phase et une direction identiques. Ils forment un rayon lumineux intense, le laser.
Les lasers sont des outils incroyablement polyvalents, qui permettent aussi de mesurer les distances. Mais avec ces lasers à haute fréquence ultra-stable, RANA pousse la précision à l'extrême.
Les lasers atteignent un degré de précision qui dépasse largement ce qu'une règle graduée ou tout autre instrument du même genre peut faire. Tous les professionnels vous le diront. La seule chose qu'on mesure, c'est la fréquence. Ceux qui mesurent autre chose sont des amateurs.
La vitesse de la lumière étant constante, le faisceau d'un laser à haute fréquence a une longueur d'onde incroyablement courte, idéale pour mesurer de minuscules variations de distance. Depuis 1996, RANA participe à un projet qui utilise la lumière laser pour mesurer un phénomène extraordinairement petit et étrange. De minuscules distorsions dans la trame de l'espace-temps.
L'espace et le temps ondulent, ils ne sont pas fixes. Même si je ne bouge pas les mains, la distance qui les sépare n'est pas toujours la même.
Cette idée, comme bien d'autres, nous la devons à Einstein. Au début du XXe siècle, ses travaux ont conduit à réunir l'espace et le temps en une entité unique, l'espace-temps. Selon son hypothèse, la gravité est due à la déformation de la trame de l'espace-temps par des objets massifs. Mais cette explication a des conséquences surprenantes. L'accélération d'objets massifs créerait des ondulations de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière, les ondes gravitationnelles.
Les ondes gravitationnelles ont d'abord été prédites par Einstein, qui n'y a pas cru tout de suite. Il a changé d'avis plusieurs fois au cours des années 1930, et il en a conclu qu'elles étaient bien trop infimes pour pouvoir être un jour détectées.
Dans les années 1980, afin de relever ce défi, l'observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser, baptisé Projet LIGO, a été fondé conjointement par Caltech et le MIT. Caltech, une partie des travaux de Rana consiste justement à améliorer le cœur battant de LIGO, l'interféromètre laser.
C'est ici que tout commence. Je vais vous montrer l'interféromètre laser sur ce prototype du système LIGO.
Le concept de base est relativement simple. L'interféromètre est constitué de deux bras qui se croisent à angle droit. Un laser infrarouge très stable est envoyé vers un séparateur qui oriente une moitié de faisceau le long de chaque bras.
Une moitié du faisceau part d'un côté et l'autre moitié de l'autre. Un miroir à l'extrémité de chaque bras renvoie la lumière.
Les deux ondes lumineuses sont en phase inverse. Si tout est normal, lorsqu'elles se recombinent, elles s'annulent mutuellement, ce qui a pour résultat une absence de signal. Mais si une onde gravitationnelle traverse la Terre et déforme l'espace-temps, la longueur de chaque bras est modifiée, ce qui provoque un décalage de phase entre les deux faisceaux. Pendant un bref instant, l'interféromètre enregistre un signal.
Au lieu d'avoir une annulation exacte et une interférence destructive, une petite quantité de lumière parvient à sortir, et c'est ce qu'on détecte.
Mais il existe une différence majeure entre l'instrument sur lequel Rana travaille et le vrai observatoire. La taille. Voici l'une des deux installations LIGO situées aux États-Unis. Si à Caltech, les bras de l'interféromètre font environ 40 mètres de long, ici, ils s'étirent sur 4 km chacun. Avec des centaines de millions de dollars investis, le projet LIGO était un pari fou basé sur une théorie jamais éprouvée, qui a pourtant fini par payer. En 2015, un signal est détecté. Et pas n'importe lequel.
Le premier événement détecté par LIGO est le plus puissant qu'on ait jamais enregistré depuis le Big Bang. La collision de ces deux trous noirs a émis plus d'énergie que toutes les étoiles de l'univers additionnées. Et cette énergie s'est manifestée sous la forme d'une vibration sur le tambour de l'espace-temps.
Depuis ce premier événement, LIGO confirme en avoir détecté plus de 80 au total. On ne saurait exagérer l'importance d'une telle découverte.
LIGO est extraordinaire. Albert Einstein avait prédit l'existence des ondes gravitationnelles. Et aujourd'hui, on sait les mesurer. Jamais on n'avait observé les trous noirs de manière aussi directe. C'est une vraie révolution pour la science.
Et elle n'a été rendue possible que grâce à une technologie quantique qui fait désormais partie intégrante de nos vies. Le laser.
Plus nos lasers seront stables et plus on pourra mesurer de choses dans l'univers. Et c'est sans limite. En améliorant les lasers au fil des ans, on verra de plus en plus loin dans l'univers. On distinguera des choses de plus en plus minuscules dans la nature microscopique de la réalité, de la matière, de l'espace et du temps. Il faut continuer à rendre cet outil plus performant.
L'une des plus grandes avancées de la physique quantique de ces dernières décennies réside vraisemblablement dans notre compréhension plus approfondie d'un état partagé très particulier, l'intrication quantique. Imaginez une machine qui donnerait des pièces de monnaie par paire. En apparence, ces pièces ont l'air tout à fait ordinaires. Lorsque vous en lancez une, vous avez 50% de chance qu'elle retombe soit du côté pile, soit du côté face. Rien d'étrange là-dedans. Refaisons l'expérience avec une toute nouvelle paire. Vous lancez la première pièce, elle tombe côté face. Vous lancez la seconde, elle tombe aussi côté face. C'est peut-être un coup de chance. Vous recommencez avec une autre paire. Cette fois, la première pièce tombe sur pile et la seconde fait pareil. Le résultat concorde à nouveau. Vous relancez une nouvelle paire. Puis une autre. Encore une autre. Et ainsi de suite. Les deux pièces tombent toujours du même côté. Comment est-ce possible? Peut-être que d'une manière ou d'une autre, la première pièce, une fois tombée sur pile ou sur face, informe sa partenaire du comportement à adopter. Pour empêcher que ça ne se reproduise, vous séparez les pièces en emmenant la première sur la Lune. Puis, vous les lancez en même temps. Aucun message ne pourra donc circuler entre elles. Mais le résultat concorde à nouveau. Ça paraît trop étrange pour être possible. Et pourtant, les particules peuvent vraiment se comporter comme ces pièces. En physique quantique, on appelle ça l'intrication.
L'intrication est un fait, aussi génial et frustrant soit-il, et il faut beaucoup de temps pour réussir à l'assimiler.
L'intrication est certainement la propriété quantique la plus intéressante et la plus déroutante.
C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui fait pourtant partie intégrante du monde qui nous entoure et de son fonctionnement.
Et même si vous n'êtes pas prêt de tomber sur un intricateur de pièces, en laboratoire, les scientifiques génèrent quotidiennement des paires de particules intriquées dont l'état quantique est si étroitement lié qu'elles peuvent être considérées comme un seul objet quantique.
On ne peut pas les différencier. C'est un système unique.
C'est comme une entité unique, mais séparée spatialement et sans aucun lien physique.
Les particules intriquées restent liées, même lorsqu'elles sont séparées par des centaines de kilomètres. Et certainement davantage.
Et entre ici et la galaxie voisine ? Probablement. Aucune équation ne prouve le contraire.
L'intrication est une notion étrange. Einstein avait qualifié cette idée d'action à distance fantomatique. Mais depuis les années 1970, toutes les expériences confirment, les unes après les autres, que l'intrication quantique est un phénomène bien réel.
Bien entendu, des dizaines d'années plus tard, on sait que l'intrication fait bel et bien partie de notre monde. C'est comme ça qu'il fonctionne à l'échelle quantique. Mieux vaut se faire à l'idée et chercher comment l'exploiter.
Essayons d'utiliser cette puissance et faisons-en un nouvel outil.
Parvenir à créer et à contrôler l'intrication quantique est probablement l'une des plus grandes avancées scientifiques et techniques du XXIe siècle.
Une avancée qui se produit sur plusieurs fronts. L'intrication est aujourd'hui utilisée en cryptographie quantique, en communication quantique, dans les horloges atomiques et pour continuer d'améliorer le système LIGO. Mais l'application qui fait le plus parler est certainement l'informatique quantique. Et tout part de ceci, le qubit. Le qubit doit son nom à son homologue en informatique classique, le bit. Un bit ne peut prendre que deux valeurs, 0 ou 1. Voilà pourquoi on dit qu'il est binaire. Ce début, somme toute modeste, sert pourtant de base à l'ensemble des systèmes informatiques qui font tourner notre monde moderne.
Tous vos calculs, tous vos emails, que vous écriviez à un ami ou que vous calculiez la trajectoire d'une fusée pour la NASA, tout n'est qu'une suite de 0 et de 1 au cœur de votre ordinateur. C'est un langage universel incroyable.
Malgré l'ampleur de sa réussite, le bit traditionnel reste l'équivalent d'un interrupteur, allumé ou éteint. Or, le qubit, lui, est bien plus subtil.
Le qubit est différent parce qu'il obéit aux lois de la mécanique quantique. Il n'est pas tenu d'être uniquement dans l'état 0 ou dans l'état 1. Il peut être une superposition des deux.
Cette superposition d'états crée un espace mathématique qu'on représente le plus souvent sous la forme d'une sphère.
Là où un bit classique ne peut exister qu'au pôle sud ou au pôle nord, le qubit peut exister n'importe où à la surface de la sphère.
Ça ouvre un nouveau champ des possibles en termes d'opérations mathématiques.
Mais en informatique, un seul qubit ne vous emmènera pas très loin.
Un qubit n'est pas un ordinateur. Ou alors, c'est l'ordinateur le plus petit et le plus inutile du monde. Mais quand on en combine plusieurs, on développe une puissance de calcul informatique qui produit des résultats.
L'utilisation conjointe de plusieurs qubits permet d'exploiter la puissance de l'intrication quantique et d'atteindre des degrés de complexité stupéfiants.
Si je voulais décrire de manière exhaustive ce qui se passe quand quelques centaines de qubits sont intriqués, il me faudrait davantage de bits qu'il y a d'atomes dans l'univers visible. Et c'est cette extravagance du langage quantique qu'on cherche à exploiter avec l'ordinateur quantique.
Au-delà des travaux de recherche menés par les universités, aujourd'hui, près d'une centaine de sociétés créent des qubits et développent du matériel informatique quantique. Les plus gros acteurs du secteur sont Google, Microsoft, Amazon et IBM. Son siège se trouve ici, au centre de recherche Thomas J. Watson, situé à Yorktown Heights, près de New York.
Je vais vous présenter notre IBM Quantum System 2. À l'intérieur se trouvent trois processeurs quantiques, et notre équipe étudie actuellement des algorithmes capables d'utiliser plusieurs processeurs différents.
Les qubits d'IBM sont générés grâce à de petites boucles de métaux supraconducteurs. Puisque les supraconducteurs ne peuvent fonctionner qu'à des températures très basses, une unité de réfrigération occupe la partie centrale de l'ordinateur. D'ailleurs, l'unité de refroidissement d'un ordinateur quantique a l'air si futuriste